Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, la boîte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes est à seulement 3,69€.
À ce prix-là, je pense déjà à mon velouté d'asperges. Mes invités vont en voir de toutes les couleurs.
C'est ça le printemps.
Bon bah je vous laisse, j'ai des courses à faire.
Et ça, c'est le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 3,69€ la boîte de 500 grammes d'asperges blanches-violettes, soit 7,38€ le kilo. Origine France, catégorie 1, calibre 16-22. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Deuxième partie de ce week-end des experts, les animaux, bon dimanche, merci d'être avec nous et bel été surtout, bonnes vacances, j'espère que vous en profitez bien. Tout à l'heure on parlera des chevaux athlètes qui se préparent aussi pour les Jeux Olympiques, ils vont bientôt voyager. On pourra devenir aussi propriétaire d'un petit lopin de terre en Écosse pour sauver les chats sauvages. Et puis, on découvrira un hôtel de luxe pour chats en Bretagne.
Ben oui.
Voilà, carrément.
Ben oui, si on veut partir en vacances, l'esprit tranquille, pourquoi
bien,
pas.
Ça sera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Laetitia, attention, l'ambiance monte dans ce studio. Le soleil.
Le soleil.
Surexcite. Bon, alors attention, on se calme un peu. Laetitia, là, on va parler des amours des animaux pour l'été.
Et nous sommes avec notre ami Marc Giraud, qui vient d'écrire un livre sur les amours bestiales, qui s'appelle Le sex appeal des crocodiles aux éditions de La Chaux et Nestlé.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Bonjour à tous.
Alors,
on vous attend depuis une heure avec impatience. Hein.
Ah bah là, c'est l'été. Hein.
Là, on n'en peut plus.
Ah là, c'est vrai qu'on découvre quand même les amours. La vie sexuelle est parfois débridée des animaux, hein, quand même. Hein. Et attendez, on découvre quand même dans votre livre que les animaux comme nous, d'abord, peuvent faire preuve d'amour et surtout avoir du plaisir.
Et oui, ça c'est la grande leçon, hein, parce que pendant longtemps, les humains se sont crus les seuls capables de beaucoup de choses et que les animaux n'avaient le droit à rien.
Eh oui.
Mais en fait, si ça coupe, c'est bien qu'ils y trouvent un plaisir, sinon ils se rapprocheraient pas les uns des autres.
Donc c'est leur instinct leur procure aussi du plaisir, quoi, c'est ça.
Leur instinct et leurs organes.
Et leurs organes.
Non, mais c'est vrai que les chercheurs ne se sont pas du tout intéressés au plaisir.
Non, surtout
des animaux.
Les chercheurs mâles.
Mais surtout les chercheurs mâles, à l'orgasme des animaux, faut le
voilà,
dire.
Parce que bon, le plaisir masculin, ça, personne ne doute qu'il existe, mais le plaisir féminin, quand je dis féminin, c'est pour les femelles animales aussi, on s'y est quasiment pas penché. Or, il y a un seul organe qui est voué entièrement au plaisir et à rien d'autre, c'est le clitoris.
Et qui existe chez les animaux?
Et oui, bon, les tortues en ont et tous les mammifères en ont, hein, de la souris à la baleine. Donc toutes connaissent le plaisir.
Ah oui, je savais pas que la tortue en avait un.
Oui, les femelles de tortue en ont un, et même les moustiques. Alors, un gros moustique qui s'appelle le tipule, qu'on appelle quelquefois le cousin, le mâle a une sorte de vibromasseur dans le pénis, c'est-à-dire qu'il fait de la musique. Il a une caquette à musique, et ça dure des heures.
Vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas raconter ça à la radio.
Ah bah si,
non, non, une caquette à musique, c'est pas possible.
Marc. Mais les enfants savent très bien ce que c'est que la musique.
Oui, bien sûr.
Tout le monde peut écouter.
Bravo. Il y a les vibrations avec.
Voilà, et visiblement ça dure des heures et c'est pas uniquement pour se féconder. Parce que le va-et-vient de l'accouplement, même chez les humains, il n'a aucune autre fonction que le plaisir féminin. Parce que un organisme qui veut éjecter un produit, il y en a pour une seconde, quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc il y a toute une phase de préliminaire. Et la fonction, encore une fois, c'est bien que les accouplements, les animaux s'accouplent. Et pour qu'ils s'accouplent, il faut une motivation. Alors, et pourquoi ils se masturberaient, s'ils n'avaient pas du plaisir? Ceux qui ont des chats et des chiens savent très bien que les chiens sur les coussins. Hein.
Bah, exactement, voilà. Oui, ça c'est vrai. Nous on l'observe. La masturbation n'est pas seulement humaine.
Non, mais là, parfois on a l'impression que c'est presque un besoin au-delà d'un plaisir aussi.
Ah bah oui. Voilà. C'est ça, c'est un instinct.
Voilà, c'est ça.
Parce que les animaux sauvages, ils ont peur du contact, a priori. Ils sont sauvages, ils se mangent les uns les autres. Ils sont pas faits pour se rapprocher forcément, bon, à part quelques espèces de troupeaux, mais sinon, grégaires. Mais sinon, il faut vraiment qu'il y ait toute une série de... Bah, c'est la fonction des paranuptiales, d'ailleurs, c'est de... d'abord à montrer à l'autre qu'on est de la même espèce et qu'on est pacifique.
Ah ben ça, c'est sûr que pour draguer, ils ont des méthodes bien, quoi, les animaux.
Ah ben les bien mâles, en général, c'est les mâles qui draguent. Hein. Alors, il y en a qui chantent, il y en a qui volent, qui dansent, qui se parfument, qui font des acrobaties. Bon, ils se battent, ils minaudent, ils offrent des cadeaux de noces.
Des cadeaux.
Ils proposent des bonbons, il y en a qui offrent des fleurs, il y en a qui construisent des palais, il y en a qui font semblant de se laver, il y en a même qui mentent pour avoir arrivé à leur fin.
Il y en a qui font semblant de se laver.
Oui, c'est les canards. On appelle le rituel des toilettages. Ils se grattent les plumes de l'arrière pour montrer les belles couleurs de leurs plumes qui vont plaire aux femelles. Donc il y a toute une séquence comme ça où ils font semblant de se faire leur toilette. C'est comme ça qu'ils plaisent aux filles.
Ah, c'est comme les hommes qui se mettent du gel dans les cheveux.
C'est ça. Il y en a, c'est le contraire. Par exemple, il y a une chauve-souris, elle sent très fort sous les bras, le noctilion bec de lièvre, elle s'appelle. Elle sent très fort sous les bras, et ça plaît énormément aux filles. Donc, on les sent d'ailleurs, hein, quand elles volent à côté de nous, on les sent, quoi. C'est vraiment l'odeur de l'amour pour elles.
Ah oui, c'est le parfum qui attire les femmes.
Ben, pourquoi une truie va chercher des truffes? C'est parce que la truffe, c'est les mêmes phéromones que le verra en rut.
Non, c'est pas vrai.
Oui, c'est pour ça que. Oui.
Mais
c'est
la pauvre, elle doit être hyper frustrée parce que hop, là, on lui pique la truffe et puis après, elle a rien du tout.
Ah ben les animaux domestiques sont souvent frustrés sexuellement, ça c'est sûr. Hein. Et nous, quand on mange une omelette aux truffes, c'est une omelette au parfum sexuel de cochon, quoi. En gros.
Alors vous avez dit
Dieu, moi qui adore ça.
Que certains pour draguer, ils mentent.
Oui.
Hein, c'est comme, enfin c'est aussi une technique de drague, hein.
Et puis c'est une preuve d'intelligence.
Oui.
De savoir marquer la vérité. Par exemple, le coq dans la basse-cour, il a l'habitude de faire des petits cris d'appel de nourriture quand il trouve de la nourriture. Toutes les poules viennent pour en manger.
Oui.
Et si jamais il y a une petite poulette nouvelle qui arrive, il lance quand même son cri de nourriture, même s'il n'y en a pas. Comme ça, il l'attire.
Oh, enfin, il l'attire. Elle apostrophe de T-I-R-E. C'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Les deux.
J'ai eu peur, Marc. Non, faites attention. Hein.
Ah, y en a aussi qui peuvent draguer en boîte de nuit, j'ai lu.
Ah oui, alors ça c'est le cacapo qui
mais
a besoin d'une cuvette. Le cacapo, c'est un gros perroquet.
Oui, d'accord.
C'est le plus gros perroquet du monde d'ailleurs, de Nouvelle-Zélande. Il est incapable de voler, il est nocturne, il est très bizarre. Et il y a des sortes de clubs de rencontres, donc les mâles creusent une espèce de cuvette où ils chantent. Tous, mais ils chantent énormément. C'est des espèces de grognements, c'est un peu des groupes musicaux, quoi, des boy bands, si vous voulez. C'est jusqu'à 17 000 grondements par nuit, quand même, pour attirer les filles. Donc, elles arrivent à pied, puisqu'elles volent pas. Et là, ils font leurs démonstrations, ils font leurs acrobaties, ils montrent leurs belles plumes, etc. Et les femelles choisissent, quoi. C'est exactement comme une boîte de nuit, et puis il y en a qui font banquette.
C'est pas vrai.
Bon, allez, rentrons dans les détails. Moi, j'aime bien.
Non, Laetitia,
alors,
pas trop.
Rentrons.
Marc, pas trop, s'il vous plaît.
Parlons pour commencer des igounettes, hein. On découvre quand même faut parler de la chose quand même.
Sûr, hein.
Bon, voilà.
Sûr.
C'est quand même la nature.
C'est la nature.
C'est que, alors, d'abord, savoir que les igounettes ne sont pas universelles. Il y a des animaux qui en ont pas, et même la plupart des oiseaux n'en ont pas.
Non, plus de 90%, 97% des oiseaux n'ont pas de petits oiseaux. Les pauvres, c'est ce qu'on appelle un baiser cloacal, ça va assez vite, et puis terminé.
Mais alors, comment ils font, Marc, en rentrant un petit peu dans les détails? Parce que s'il n'y a pas la bistouquette qui machin, comment ça marche?
Il n'y a qu'un conduit qui est le cloaque, qui sert à tout, à la digestion et à la sexualité. Donc c'est le baiser cloacal, c'est-à-dire qu'ils se mettent cloaque contre cloaque, ce qui n'est pas facile quand on est un oiseau, donc il faut monter dessus. La femelle doit se tordre vers le mâle se tord vers la femelle.
Ouais, tout ça en plein vol. Tout ça en plein vol en plus.
Ça c'est chez les martinets, ouais. Martinets, ils font ça en vol.
Ouais. Oui. En plus,
ils sont forts.
Et alors, il y a un chapitre dessus quand même, parce que la diversité, comment vous l'appelez, kékétest, est incroyable chez les animaux.
Mais c'est incroyable, parce qu'en fait, ça a une fonction pour les femelles, justement. C'est tellement tarabiscoté que c'est aussi pour le plaisir de la femelle.
Alors moi, je connaissais le cochon qui avait une zigounette en forme de tire-bouchon.
Oui.
Voilà. Et vous avez d'autres...
Il y en a un animal qui a une quéquette à quatre têtes. Ça, c'est l'équidnée. Parce que la femelle a des conduits tellement complexes qu'en fait, il asperge dans tous les sens.
Marc. Non. On va couper ça. Ah zut, on est en direct, on peut pas. C'est embêtant. Marc, vous restez avec nous?
Oui.
On a encore 2-3 cochonneries à raconter quand même.
Hein. Et ça,
on va pas s'arrêter là. Allez, à tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts. On découvre ce matin le sex appeal du crocodile, l'ouvrage de Marc Giraud et Gilles Macagno, paru aux éditions de La Chouette Niesley. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin. Laetitia, notre vétérinaire qui m'accompagne, vous le savez, chaque dimanche, 6h-8h. Tout à l'heure, Laetitia, on va parler d'un hôtel 5 étoiles luxe pour chats en Bretagne.
Oui.
On va pouvoir aussi investir dans un petit lopin de terre en Écosse pour sauver des chats sauvages. Et on s'intéressera aussi à des chevaux pas comme les autres, hein, tout à l'heure.
Et oui, c'est les chevaux athlètes qui se préparent pour les JO.
Eh oui.
À Rio.
Ils vont prendre l'avion et tout et tout.
Oui.
On va rentrer dans les détails. Mais auparavant, on découvre avec beaucoup d'intérêt le sex appeal du crocodile. C'est le nouvel ouvrage de Marc Giraud et de Gilles Macagno. Le sex appeal du crocodile et autres histoires bestiales.
Eh oui, on parle des amours des animaux. Et alors, faut savoir quand même que le mariage pour tous, ce sont d'abord les animaux qui l'ont inventé.
Oui, en fait, un papa et une maman, ça c'est qu'on entendait dans les manifs homophobes, ça n'a pas tellement de signification en biologie, hein, parce qu'il y a des animaux qui s'accouplent par parthénogénèse, enfin qui se reproduisent plutôt par parthénogénèse, c'est-à-dire que la femelle divise ses œufs toute seule, elle n'a pas besoin de mâle.
Ah ben voilà.
Et ça, ça a été découvert chez les pucerons en 1740, il y a déjà un moment, mais on l'a découvert par exemple sur toute une population de lézards qui s'appelle les fouettes-queues d'ailleurs.
Ah
il
n'y
a,
oui,
a que des filles.
Il n'y a que des filles. Mais elles ont quand même des relations. Hein.
Alors elles ont quand même besoin d'une parade pour se stimuler l'une l'autre.
Oui.
Mais c'est tout. Il n'y a forcément pas d'accouplement et elles se portent très bien sans mâle. Donc c'est l'amour sans mâle.
Alors on apprend aussi que la prostitution, c'est certes le plus vieux métier du monde, mais chez les animaux aussi.
Non, c'est pas vrai, Marc.
Ben si, par définition, c'est échanger son corps contre quelque chose. Et en fait, les animaux, ils s'intéressent pas à l'argent, mais ils ont besoin de manger de temps en temps. Et même le petit colibri tout mignon, la femelle, quand elle a vraiment besoin de butiner des fleurs, parce qu'elle a besoin d'énergie très vite, si elle se retrouve dans un beau territoire où le mâle a beaucoup de fleurs à butiner, ben, elle va accorder ses faveurs derrière un buisson et puis elle aura le droit de manger. Donc, mais ça, c'est assez courant, hein. C'est beaucoup d'animaux.
Bon,
hein.
Bah, déjà, il y a beaucoup de cadeaux aussi que font les mâles. Et des cadeaux, souvent, des cadeaux à manger.
Oui, les araignées, par exemple, qui enveloppent une mouche dans un beau cocon de soie.
Ah, oui.
Comme ça, pendant que la femelle déballe le cadeau, lui, il va pouvoir consommer...
Sans être mordu, sans être
avalé.
Mais il faut qu'il se dépêche, non?
Il faut qu'il se dépêche. Mais il y a quand même des mufles qui font un beau cadeau, mais il n'y a rien dedans. Mais,
C'est pas vrai.
C'est-à-dire que la femelle, elle ouvre le cadeau et hop, il n'y a pas d'insecte
mais
dedans.
Il a eu le temps de faire son affaire et de décamper. Donc,
le mufle.
C'est pas beau. Hein.
C'est pas beau,
après,
ça.
Après, on se rend compte, Marc. Oui, pardon, allez-y.
Il y a un oiseau qui offre des fleurs, quand même. Le mérion superbe, c'est carrément une petite fleur qu'il a dans le bec.
Non.
Il offre à ça ou ses femelles, parce qu'il peut le faire à une dizaine de femelles. Mais les femelles sont aussi volages que les mâles.
C'est le bachelor, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est le bachelor. Après, on se rend compte quand même qu'il y a des classiques pour la drague. Le chant. Ça marche toujours, hein, Marc. Quand on chante, on tout de suite, on se met en avant et on arrive à draguer. Et il y a plein d'animaux qui chantent, en fait. Enfin, qui chantent.
Bah oui.
Par exemple,
bien sûr.
Le crocodile, lui, peut faire beaucoup de bruit.
Ah ben oui, c'est la spécialité des crocodiles, parce que les reptiles, c'est assez silencieux, mais alors eux, ils meuglent, ils vagissent, ils grognent, ils sifflent, ils toussent, ils rugissent, ils s'éclaboussent. Les alligators, par exemple, ils vocalisent, ils font des bulles dans leur bain, et c'est comme ça qu'ils plaisent aux filles.
Ah ouais.
Et il y en a aussi qui charment.
Ça fait un peu je te drague dans le spa.
Ben voilà,
alors,
c'est
ça.
Alors, puisqu'on est dans le bain, parlons d'urine aussi. Il y en a qui, qui urinent sur les femelles quand même.
Ah oui, ça c'est le parfum d'amour par excellence, parce que les phéromones, elles sont beaucoup véhiculées par l'urine chez les mammifères, mais aussi chez des animaux marins, comme le homard, qui est très peace and love. Quand je dis peace, c'est pas en anglais. Lui, il envoie ses messages chimiques par des orifices qui sont autour des yeux. Autrement dit, pour draguer, lui, il fait pipi par les yeux.
Oui, et puis il attend quand même le striptease de sa femelle.
Oui, parce que comme ils sont en armure, ils peuvent pas s'accoupler, donc il attend la mue, parce que tous les crustacés se débarrassent de leur carapace quand elle est trop petite. Donc il attend la mue, et si jamais la femelle est pas assez déshabillée, il l'aide à se déshabiller un peu plus vite, quoi, voilà.
Alors, ouais. Quand même, les pratiques sexuelles sont très variées chez les animaux, et encore plus que chez nous, quand même.
Bah, il existe de tout, des choses totalement inimaginables chez nous. Par exemple, il y a des mâles qui vivent à l'intérieur de la femelle, tellement ils sont disproportionnés, quoi. Ils vivent quasiment en parasite à l'intérieur de la femelle. Donc là, on n'imagine même pas.
Par exemple, hein.
Il y a la bonélie, qui est un ver marin qu'on voit en Méditerranée. La femelle peut avoir des dizaines de mâles à l'intérieur d'elle, qui servent de sorte de réserve de spermatozoïdes. Finalement, ils servent qu'à ça. Hein. Comme les baudroies des abysses aussi. Le mâle, il se scotche. Il est tout petit, il se scotche à la femelle. Il branche son système sanguin sur la femelle,
ah ouais.
Et digestif. Donc il fait plus rien d'autre que d'être une sorte de testicule à disposition de la femelle quand elle a besoin de sperme.
Bon, une question qui nous taraude tous. Comment font les hérissons ?
Ah oui, bah oui, ça pique, hein.
J'ai l'impression.
Eh oui. Comment ils font ?
Alors bon, d'abord le mâle, lui, il a une bistouquette à rallonge, donc ça aide déjà de faire sa distance. Et elle se situe très haut. Si vous regardez un hérisson sur le ventre, elle commence à peu près où on attendrait le nombril, quoi, déjà.
Oui, c'est vrai. Voilà.
Ah ouais.
Et puis la femelle rabat ses piquants, donc elle l'aide quand même quand elle est contente.
Ah oui, elle prépare la piste d'atterrissage, quoi.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est-à-dire que quand elle dit non, c'est non.
Ben, le mâle peut pas faire autrement. De toute façon, c'est toujours les femelles qui choisissent, hein.
Marc, merci beaucoup.
Merci.
Le sexe à pile du crocodile aux éditions de la Chaux et Niesley.
Voilà.
Merci beaucoup.
Bon dimanche. Au revoir.
Qu'est-ce qu'on a rigolé. Oh là là. Vraiment, c'est excellent à lire, évidemment. Alors, c'est pour tous les âges et c'est sur la plage. C'est le top.
Illustrations
qui sont à mourir de rire.
À mourir de rire.
Notamment la mouche, là, qui est un peu dépitée parce que.
Eh oui, on en a parlé. Parce qu'elle s'était.
C'est excellent.
Elle a pris un râteau et elle demande une bière.
Une bière. Allez, on revient après la météo, les infos sur RMC. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux, on est là jusqu'à 8h. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau, vous le savez, pour l'automobile 8, 10 et toutes vos questions auto au 32-16. Tout à l'heure, on va découvrir Chanima, qui tient un hôtel de luxe pour chats en Bretagne, Laetitia.
Oui.
On essaiera aussi d'investir pour acheter peut-être un petit lopin de terre en Écosse.
Voilà, pour sauver les chats sauvages.
Pas mal.
Une bonne action.
Mais pour débuter, bientôt les JO.
Oui, bien sûr. Et bien sûr, nos athlètes sont prêts, se préparent. C'est dans 3 semaines l'ouverture des JO de Rio. Nos athlètes se préparent depuis des mois, voire des années, mais nos athlètes humains, mais aussi les chevaux qui vont concourir dans 3 disciplines olympiques, le dressage, le saut d'obstacle et le concours complet. Et nous sommes avec Sophie Dubourg, qui est directrice technique nationale. Sophie, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour. Alors, on a une quinzaine de chevaux qui vont partir. D'ailleurs, ils vont partir quand sur le sol brésilien ?
Alors, on a bien 15 chevaux et ce sont des départs échelonnés puisque les 3 disciplines se suivent, se chevauchent aussi, mais on démarre avec le concours complet.
Oui.
Avec des chevaux qui vont déjà partir le 28 juillet.
Oui.
Ils vont partir de Liège pour un vol de 12 heures. Les chevaux de dressage à la suite qui vont partir le 1er août. Et les chevaux d'obstacle pour terminer qui vont partir, eux, le 5 août.
Alors, ils auront combien de jours sur place pour récupérer avant les épreuves ? Parce que c'est quand même des... Il faut qu'ils s'acclimatent au lieu, au décalage horaire, à la température, à l'humidité aussi.
Oui, bien sûr. Alors, tous ces vols-là donc partent de Liège. On a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. Il y a plus de quarantaine. On a aujourd'hui un suivi accru sanitaire en amont de ce départ de 14 jours avec tous les soins et tous les lieux qui sont bien tracés pour les animaux qui doivent pas être bien sûr vivre en proximité de chevaux qui ont un suivi sanitaire inférieur, d'exigence inférieure.
Oui.
Ils ont 12 heures de vol.
Oui.
Et puis quand on arrive à Rio, ils sont assez rapidement acheminés sur le site, donc ils ont à peu près 16 heures de transport. On n'observe aucun décalage, aucun jet lag sur les chevaux.
Ah bon ? Ils n'ont pas du tout de jet lag ?
Pas du tout. Donc ça, c'est un point très positif.
Ah ouais.
Contrairement à leurs pilotes, à leurs cavaliers.
Oui.
Maintenant, Rio, c'est l'hiver à cette période-là. On s'y est rendu l'année dernière à la même date pour un test event pour tester les sols, l'organisation. C'est 22-23 degrés température ambiante. Il y a eu un hiver très chaud l'année dernière comme il n'y avait pas eu depuis 10 ans. Donc on espère cette année que l'hiver sera un peu plus frais.
Oui.
Et on a un ressenti à 28-29 degrés, surtout un taux d'hygrométrie, d'humidité qui est assez important, qui nous oblige à tout simplement à bien humidifier les chevaux, à faire que on les expose pas trop au soleil. Ils sont perfusés très facilement. C'est des chevaux qui connaissent tout ce protocole, oui. Très hydratés.
Oui.
On les perfuse, tout à fait. Oui. Parce que ce sont des grosses masses. Qui font 600 kilos. Ils y sont tout à fait accoutumés. On a là les 15 meilleurs chevaux français qui ont l'habitude de traverser la planète, parce qu'on a des circuits mondiaux, il y a des championnats du monde aussi qui sont déjà déroulés à outre-Atlantique. Donc
ils y sont allés déjà en Amérique du Sud?
Oui, tout à fait. Les chevaux d'obstacle, oui, quelques chevaux de dressage, 2 chevaux de complet sur les 5.
Oui,
ils ont déjà pris l'avion. Alors le plus impressionnant pour eux et pour nous, c'est l'avion. Ce sont des charters constitués de box individuels,
oui.
Des charters qui comportent 40 chevaux qui sont accompagnés d'un vétérinaire et d'un soigneur pour 5 chevaux.
D'accord.
Donc, la particularité, la difficulté, c'est que c'est un soigneur qui connaît pas forcément très bien les 4 autres chevaux, puisque dans notre équipe de France, par exemple, pour le jumping, on va retenir qu'un seul groom qui va accompagner les 5 chevaux de l'équipe. Et on fait un travail en amont, tout simplement sur toutes les épreuves et compétitions par équipe, s'ils ont l'habitude de travailler ensemble, où on oblige et on organise à ce que les grooms et les palefreniers parlent de leurs propres chevaux et de leur petite manie aussi, de leur
petit choix. Oui, parce que chaque cheval a, je dirais, sa nounou, son groom particulier qui suit le cheval. Enfin, le plus loin possible, c'est-à-dire pendant presque toute sa carrière, c'est ça?
Toute sa carrière, et la particularité des jeux, en tout cas quand on monte dans l'avion, c'est que on partage le charter avec d'autres nations et c'est un seul soigneur par nation pour nos 5 chevaux.
Ah oui, donc là, c'est là où. Et il n'y a pas de panique pendant le voyage dans les avions?
Non, les chevaux ne se rendent pas vraiment compte, en fait. Il y a un peu de bruit décollage, atterrissage, on se rend compte qu'ils se contractent, mais il n'y a pas d'excès. Ils sont dans des box, ils sont très confinés.
Oui.
Il ne faut pas qu'il y ait trop de turbulences, quoi.
Oui, encore une fois, les turbulences, on n'observe pas d'inquiétude. C'est plutôt le bruit que les mouvements, parce que je vous invite à faire un transport dans un petit camion.
C'est ce que j'allais dire.
qui à chaque rond-point bouge beaucoup plus que dans un avion. Donc ils sont habitués à tous ces mouvements-là. Il n'y a pas de claustrophobie d'observer.
Ils ont droit à quelques collations, tout comme nous, quand on prend l'avion?
Non, on évite pour des problèmes intestinaux. C'est un animal qui a un très petit estomac. Qui fait 3 à 5 repas dans de petites quantités pour éviter les problèmes de transit, comme nous quand on n'est pas bien, vaut mieux ne rien manger et boire un peu que que charger l'estomac.
Et puis après, alors, les problèmes de transit, ils pourront l'avoir quand ils atterriront. Mais ça, c'est un autre transit, c'est autre chose.
Tout à fait. Ils sont très surveillés aussi pour.
Alors l'alimentation, toujours... est-ce que vous venez avec vos propres foins, vos propres granulés de France?
Alors les fourrages, non, tout simplement parce que ça, pour des problèmes sanitaires, ça peut véhiculer plein de choses. Un peu d'enrubanné, c'est-à-dire que c'est une forme de fourrage qui est complètement fermée, hein, sous vide.
Oui.
Les granulés, il n'y a pas de problème. Au contraire, les autorités brésiliennes préfèrent qu'on vienne avec nos granulés, qui sont des granulés très contrôlés, tout simplement pour des problèmes aussi de positivité d'aliments, de compléments, plus ou moins interdits. Donc chaque sac est contrôlé et mis sous vide, sous scellé, fermé, et on préfère.
Pourquoi? Parce qu'on évite les dopages, c'est ça?
Tout à fait. Ouais. C'est le dopage, et après c'est l'alimentation quotidienne et usuelle du cheval. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le moment, en plus des problèmes de climat différents, de changer l'alimentation du cheval.
Ah oui, parce que là,
c'est comme un chien un peu délicat. Voilà, il mange la même chose toute l'année. On connaît les dosages. Et c'est surtout pas le moment de changer
quoi que ce soit. Oui,
alors tout ça a été déclaré, déjà expédié au 31 décembre, parce que les autorités sanitaires ont aussi de leur côté contrôlé tous ces produits qui peuvent véhiculer n'importe quel virus aussi.
Mais ça fait plus d'un an que vous vous préparez comme ça au JO.
Comme ça fait sur une logistique aussi détaillée, ça fait un an. Oui.
Ça fait un an. Et les chevaux se préparent au JO depuis combien de temps?
Les chevaux qui sont à maturité sportive, on n'a pas de chevaux qui ont moins de 9 ans. Et entre 9 et 13 ans, ce sont des chevaux qui qui travaillent depuis leur troisième année à cet objectif-là, ouais, quand ils en ont le potentiel confirmé vers 7-8 ans.
Alors les chevaux seront aussi accompagnés, enfin toute l'équipe sera accompagnée de 3 vétérinaires qui viennent, de 3 vétérinaires français, hein, qui sont spécialistes, oui, des chevaux.
Oui, c'est un vétérinaire dans chaque discipline pour 5 chevaux. Tout simplement parce que il y a besoin vraiment, il y a le groom, il y a le cavalier, le vétérinaire qui forment un trio de prévention, surveillance autour des chevaux. Ils connaissent bien les chevaux, ils connaissent leurs petites faiblesses, ils connaissent leurs forces. Donc on se doit d'aller jusque là-bas avec eux. Et puis un vétérinaire pour 5 chevaux, c'est pas de trop, hein. C'est pas de trop.
Il a du travail quand même tous les jours. Parce que c'est des athlètes. Les athlètes, ils ont toujours besoin, de.
Oui, et puis de beaucoup de suivi. Et on a aussi un médecin kiné pour les chevaux, un masseur pour les chevaux, un médecin kiné pour les cavaliers et aussi un masseur équin.
Vous avez un masseur équin aussi. C'est bien ça.
Tout à fait. Ouais,
faut qu'il récupère.
Eh oui, comme les grands sportifs.
On n'est pas dans la manipulation, mais on est dans le stretching, échauffement, stretching, récupération, dans le massage.
Le pire là, c'est la blessure, non, j'imagine. Enfin, ce que vous redoutez le plus.
Ce qu'on redoute le plus, ce sont les problèmes tendineux. Ouais. Ça reste le plus fragile chez le cheval, puisque c'est quand même une grosse masse avec des attaches assez fines. Ça veut dire qu'ils partent sans aucune suspicion de début de tendinite. Hein. Faut que, voilà. Maintenant, ce sont des chevaux qui sont très aguerris et qui n'ont pas été préservés, mais qui ont été préparés pour ça.
Ouais,
ouais. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, on peut avoir des petits soucis pulmonaires, des fièvres, ce qu'on appelle des fièvres de transport liées au changement climatique, d'accord, à la clim dans l'avion. Ouais, ouais. On sait gérer. Et la grande peur aussi des problèmes de pied, d'abcès, avec l'humidité, la chaleur,
d'accord,
qui est très douloureux chez le cheval, hein, comme nous, on peut avoir une ampoule.
Bien sûr. Mais, et donc là, les performances.
Mais qui passe très vite. D'accord. Mais qui passe très vite aussi. Voilà. Donc on a 6 jours pleins avant la compète là-bas.
Sophie, on a nos chances ou pas cette année au JO?
On a beaucoup, beaucoup de chances en concours complet, en jumping et par équipe et en individuel. On n'a pas beaucoup de médailles décernées dans notre sport.
Bah oui, parce que je crois la dernière, c'était en 2004, c'était la médaille pour en équipe pour le concours complet, c'est ça?
Oui, alors ça, c'est pas ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas beaucoup. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas de chance de médailles, on en a peu eu dans les dernières Olympiades, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de médailles décernées dans cette discipline-là, dans ces 3 disciplines-là. Parce qu'on n'a qu'une médaille équipe. On est un sport mixte. Il n'y a pas les femmes, il n'y a pas les hommes.
Ah oui, c'est vrai.
Sur notre sac, il n'y a pas 3 hauteurs. On n'est qu'une sur une seule hauteur. Donc on a la possibilité d'avoir qu'une seule médaille équipe et qu'une seule médaille individuelle. Ou 3 sur mes 3 Français sur le podium.
D'accord.
Mais par rapport à la natation, à l'athlétisme, voilà. On n'a pas de déclinaison de hauteur, de catégorie de femmes, etc.
Ah oui. En tout cas, on sera avec vous.
Oui, on a nos chances. En dressage, on est un peu plus loin. On a un objectif de rester dans les 6 pour aller en finale. On a une jeune équipe qui grimpe, qui s'est qualifiée avec brio. Mais obstacle est complet, oui. Oui, oui, on espère bien.
Bonne chance, Sophie.
Bonne chance, rendez-vous dans 3 semaines.
Merci, on vous suivra avec beaucoup d'attention.
Voilà, surtout que c'est magnifique.
Merci, on en a besoin.
on est derrière vous. Vous inquiétez pas.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir, bon courage. Et bonne chance, surtout.
Bon, Laetitia, après le Brésil, direction l'Écosse. Dans quelques instants, on va vous proposer d'acheter un petit lopin de terre pour soutenir, en fait, les chats sauvages.
Et oui.
Et puis, on découvrira un hôtel, alors, pas pour nous, mais un hôtel 5 étoiles pour chats.
Pour chats.
Voilà.
Avec ambiance zen, vous allez voir.
Ambiance zen.
Et oui.
À quoi peut ressembler un hôtel pour chats, les amis? La réponse dans un instant. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, dans un petit quart d'heure sur RMC, on retrouvera la météo, les infos de 8h, et on changera d'univers avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui me rejoindra comme chaque dimanche. On poursuit notre rendez-vous animaux d'ici là avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Avant de découvrir cet hôtel étonnant, un hôtel pour chats de luxe, qui est en Bretagne. Eh bien, avant tout cela, Laetitia, on va aller en Écosse.
Eh oui, et nous allons peut-être devenir propriétaires terriens en Écosse. Mais pourquoi?
Mais pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Et nous sommes avec Anne Etourneau de France Agora. Anne, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Alors, France Agora est un spécialiste des cadeaux originaux à but responsable. Et là, vous proposez d'offrir vraiment un cadeau vraiment original pour les amoureux des animaux. C'est un lopin de terre en Écosse pour sauver des chats sauvages. Alors, expliquez-nous un petit peu cette relation.
Alors, effectivement, France Agora propose donc à tout le monde de pouvoir acquérir un petit lopin de terre. Le but est de mobiliser des fonds pour sauver le chat sauvage écossais qui est vraiment en voie d'extinction.
Alors, chat sauvage, il faut bien faire la distinction entre les chats qu'on dit sauvages, qui sont en fin de compte des chats domestiques revenus à l'état sauvage, et le véritable chat sauvage, qui est une espèce bien particulière et différente du chat domestique.
C'est vrai, tout à fait. Hein, le chat sauvage, donc écossais, vit là-bas depuis environ 2 millions d'années, c'est-à-dire beaucoup plus ça fait donc beaucoup plus longtemps que nous les humains et même nos chats domestiques.
Oui. Et alors, quel est le problème là-bas avec ces chats sauvages? Pourquoi ils sont en voie d'extinction?
Pour plusieurs raisons. Alors, la raison principale est l'hybridation, hein, donc l'accouplement avec nos chats domestiques. La deuxième raison, c'est donc les maladies que peuvent véhiculer ces fameux chats domestiques et également la perte d'habitat par rapport à la déforestation qui est donc une raison vraiment principale et qui empêche les chats sauvages de se rencontrer.
Alors, quand on si on achète un lopin de terre en Écosse, c'est quoi l'action? Quelle est l'action positive que l'on a pour les chats sauvages?
L'objectif est de créer la première réserve naturelle pour les chats sauvages et d'éveiller aussi la majorité, enfin beaucoup de personnes, par rapport à ce problème qui existe non seulement en Écosse, mais certainement dans le monde entier. On a très peu d'éléments par rapport aux chats sauvages et donc, par rapport à l'importance du chat sauvage en Écosse, des études ont été faites. On s'est rendu compte qu'il en restait, alors certains disent 400, d'autres moins de 35.
Oula, ça fait une différence.
Il y a urgence. Il y a urgence. Donc ce fameux petit lopin de terre va permettre déjà de leur créer une zone uniquement pour eux. Ils seront à l'abri pour toujours de ce qu'on appelle l'industrie forestière. Il faut dire qu'en Écosse, dans les Highlands, l'Écosse est l'un des pays les plus déboisés d'Europe. Et donc, les animaux ne trouvent plus, en tout cas les chats, ne trouvent plus leur proie. Hein, ils sont obligés de vivre dans des espaces assez restreints, avec de moins en moins de lapins, hein, qui est leur nourriture principale.
Et alors, ça veut dire que si on achète ce lopin de terre, on s'engage à ne pas exploiter justement cette terre et à laisser cette terre aux chats sauvages.
C'est cela. En fait, donc, déjà, le projet existe depuis 2008. Hein. Ils ont énormément travaillé. On a stérilisé beaucoup de chats errants. Donc, il y a toute une partie des Highlands qui est déjà saine pour que les chats sauvages et écossais puissent se retrouver et s'accoupler et se reproduire. Les terrains que nous proposons, c'est pour faire un plus, c'est-à-dire pour pouvoir permettre à des chats qui sont, qui par exemple ont été accidentés ou qui sont malades, de pouvoir récupérer. On va leur créer une zone, replanter des arbres endémiques, feuillus, pour faire restaurer la faune et la flore endémique, leur créer des tanières le plus sauvage possible pour qu'ils puissent récupérer. Il y a également des chats sauvages qui sont pour le moment maintenus en captivité, où on sait que génétiquement ils sont purs. On va certainement donc pouvoir les relâcher dans cet endroit-là pour qu'ils puissent se réhabiliter avant donc de les remettre à l'état donc complètement naturel pour qu'ils puissent vivre leur vie de chat sauvage.
Donc on participe à la création de cette réserve pour les chats sauvages. Ça coûte combien un cadeau comme un lopin de terre en Écosse?
Ça démarre à 42 euros. Hein, donc pour cela, vous avez votre titre de propriété.
Ouais.
Il faut dire aussi qu'en tant que propriétaire écossais, il existe une tradition qui fait que vous pouvez choisir de vous faire appeler Laird et qui se découle en Lord et Lady en anglais.
Oh là là, ça c'est la classe. Lord Barlerin, tout de suite, ça pète. Là, ça clash.
Alors, vous voilà, êtes Lord cool. Et en plus, vous sauvez les chats sauvages.
Génial.
Alors là, ça, c'est une bonne idée.
Merci beaucoup, Anne.
Merci. On mettra le lien. Donc, c'est France Agora qui propose ça. Ce site internet, on mettra le lien sur Facebook. Bien entendu, merci, Anne.
Bien sûr. Merci à vous.
Une bonne journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Et après l'Écosse, la Bretagne. Laetitia, on va maintenant découvrir un hôtel un peu particulier.
Voilà, ça s'appelle Shanima. C'est un hôtel de luxe pour chats en Bretagne. Et nous sommes avec le docteur Annie Cuo, qui est vétérinaire et fondatrice de Shanima, je vais le dire. Bonjour Annick.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à vous.
Alors, cet hôtel a été ouvert au-dessus de votre clinique vétérinaire. Qu'est-ce qui a motivé sa création?
Alors, le fait que nous avions en fait depuis très longtemps des demandes de nos clients pour garder leur chat.
Oui.
Le fait aussi
c'est vrai que beaucoup de clients nous demandent est-ce que vous pouvez garder notre chat cet été?
Ça c'est voilà. Vrai. Exactement. Et c'est pas simple, on les garde au sein de la clinique, ça s'est fait pour dépanner les gens, mais étant donné que le chat, il a quand même besoin de bouger, d'activité, on a décidé ainsi de faire d'ouvrir un hôtel juste au-dessus de la clinique. Et le comportement du chat me passionne énormément aussi. On a eu beaucoup de demandes aussi pour des chats d'appartement.
Oui.
Qui ont un comportement un petit peu différent qu'un chat qui sort. Et du coup, l'idée est venue comme ça, de créer cet hôtel à l'étage et d'installer un espace complètement ludique pour ce type de chat, pour qu'ils passent de bonnes vacances pendant que leurs propriétaires, eux aussi, sont en vacances.
Mais ludique, mais luxueux aussi, non? D'après ce qu'on a cru comprendre.
Alors, faites-nous une petite visite de l'hôtel.
Allez,
là. Ça se présente comment?
Oui.
Déjà, est-ce qu'il y a un lobby, comme dans tous les hôtels?
Alors en fait, on a fait ça sous forme de loft aménagé, des lofts de 5 mètres carrés à peu près.
Oui.
Donc on dispose de 18 lofts. Il y a une grande salle de jeu qui...
Ah, c'est bien ça.
Donc oui,
ça,
voilà,
plusieurs fois par jour, ils peuvent aller dans la salle de jeu jouer.
Exactement.
D'accord.
Ils restent pas tout le temps dans leur loft toute la journée. Ils peuvent accéder à cette salle de jeu et voir d'autres choses. C'est très important en fait pour le niveau comportement. Et alors chaque loft a 3 étages qui permettent de bien séparer les différentes zones dont le chat a besoin.
Oui.
On peut pas pas forcément bien de tout mettre au même niveau. Donc là, au moins, ils peuvent bouger comme ils veulent. Tous les lofts communiquent entre eux, mais peuvent être isolés à la demande du propriétaire.
C'est-à-dire qu'ils peuvent rendre visite aux copains d'à côté?
S'ils veulent.
D'accord.
Ça, c'est vraiment au choix du client.
D'accord.
Voilà. Et en fonction du comportement du chat.
Alors, je crois que vous faites plein de choses pour déstresser les chats, parce que, bon, même si c'est zen, etc., ils arrivent, ils sont stressés, les chats.
Oui, complètement. Enfin, ça peut. Il y en a qui sont très stressés, il y en a d'autres qui sont très cool. Mais chaque loft, en fait, l'ambiance est favorisée par en fait l'utilisation de phéromones et de valériane qui sont diffusées en permanence dans tout l'hôtel et les lofts. Ainsi, déjà ça les apaise. On essaye aussi de les manipuler un maximum de fois par jour. Donc avec mon assistante Valérie, qui est en fait leur nurse, qui s'occupe d'eux en permanence. Elle passe beaucoup de temps à les gratter, les solliciter, prendre contact. Et en fait, elle y va petit à petit. S'il y en a des stressés, elle prend un peu plus de temps, mais elle apprend à les connaître.
D'accord.
Alors le tarif pour
oui,
une journée?
Ah oui, ça coûte combien?
Une nuitée, on va dire.
Alors au niveau tarif, nous sommes à 14 euros par jour, en pension all inclusive. Donc quand je dis all inclusive, c'est les croquettes, la litière, fontaine à eau, l'accès...
Et caresse à gogo.
Voilà, brossage et câlin, et voilà. Et
d'accord.
On demande aussi 5 euros d'inscription à la première arrivée.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Merci Annick et bon vent pour ce projet sympa.
Alors, merci.
L'hôtel s'appelle Shanima. C'est un hôtel qui est à Dinan, en Bretagne. Voilà. Et il reste encore des places pour cet été.
Laetitia, c'est sur cette initiative amusante qu'on va se dire au revoir. On se retrouve bien sûr dimanche prochain. On sera là, 6h-8h.
Bien sûr. Toujours là. Toujours tout cet été, sauf pendant les Jeux Olympiques. Mais
voilà.
C'est normal.
C'est normal. Place au sport avec le décalage horaire.
Bonne journée à tous. Je vous embrasse.
Et dans un instant, Laetitia, après la météo, les infos. Eh bien, on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Mouroy tout de suite.